18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohand Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche 18h, 20h sur les antennes de Beurre FM. Vous savez également que ce rendez-vous est tellement attendu par la planète DZ, la planète MA, la planète TN, etc. Et que on se prend un malin plaisir à vous parler de votre actu. Des fois, bon, elle est un peu dérangeante, mais ça fait partie aussi de l'ADN de cette émission. Je vous rappelle quand même que nous ne sommes pas une émission de résultats, oui, tel joueur a marqué, etc. On s'en fout tout ça. Ici, on décortique et puis surtout, on va à l'essentiel, c'est-à-dire vous apporter l'info telle que vous la souhaitez. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. La première, c'est d'abord c'est cet hommage que ici, nous, à Beurre FM, allons rendre de la plus belle des manières à un jeune footballeur qui nous a quitté dans un tragique accident de la circulation. Ça s'est passé à Alger. Il faisait partie de l'équipe nationale Aprim, équipe que dirige Majid Bougra. Et donc, ce garçon s'appelle Bilal Belhamouda et cette émission va lui être entièrement dédié. Mais également, dans cette émission, nous avons notre coach qui a pris un peu de vacances dans sa chère Béjaïa, n'est-ce pas mon cher coach, Sophie également un peu de vacances, et du coup, je vais former un nouveau duo pour aujourd'hui. D'abord, ceux qui sont habitués à l'écouter principalement dans la matinale, eh bien aujourd'hui, il va venir carrément avec moi dans l'émission sportive. D'ailleurs, sa passion et son métier, c'est journaliste sportif. Il s'appelle Fodil. Attends, Fodil, je vais t'ouvrir le ouais, merci, ouais. Donc, c'est bon là, Fodil ?
Oui, c'est bon, merci.
Très bien, bonsoir Fodil.
Bonsoir Mohand, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi et pour les auditeurs aussi. Merci beaucoup.
Je sais que ce soir, tu vas t'éclater.
Je n'ai aucun doute là-dessus.
Parce qu'on va parler des aides, on va parler GSK, on va parler MOB si tu veux, équipe nationale, on va fouiner dans les binationaux, on va essayer de trouver. Et puis récemment, je me rappelle, je t'avais contacté pour un sujet assez intéressant qui concernait justement ces joueurs binationaux. Et je sais que toi, tu as beaucoup d'informations, notamment sur l'équipe que dirige Nordine Ouldali, dans laquelle il y a beaucoup de joueurs issus de l'immigration et qui font partie de ce qu'on appelle, pour certains, de réserves pro et pour d'autres, de petits clubs, de national, national 2, etc. Donc là, est-ce qu'on est en train de voir le futur ? C'est ce que tu vas nous expliquer. Mais, une chose est sûre, c'est que, si tu veux, avant que Boula arrive, on va essayer d'analyser dans un premier temps, ce qui s'est passé en Afrique lors de la dernière journée, c'est le sport côté africain.
Le sport côté Afrique.
Côté Afrique. Côté Afrique.
Bon, mine de rien, ça c'est... J'essaie de faire un petit parallèle avec... comment on appelle ça? Avec la Ligue des Nations, puisque quand on regarde l'Afrique, on a joué plutôt déjà deux journées éliminatoires de la CAN 2023. Il y a eu quand même des surprises, mon cher Fodil.
Des surprises, notamment du côté de l'Égypte, avec une défaite 2-0 face à l'Éthiopie. Concoire, maintenant, il n'y a plus de formation qu'on peut qualifier de formation faible, surtout en Afrique. On a constaté aussi la victoire de l'équipe nationale algérienne.
Tanzanie, oui, mine de rien. Oui,
avec un petit but de la nouvelle coqueluche algérienne, Mohamed Amin Amora. Et aussi le retour de Ben Sebaini. Avec un but à la clé, parce qu'on l'a souvent critiqué depuis des semaines, disons qu'il n'apporte pas grand-chose à l'équipe nationale algérienne.
Je le trouve un peu agressif ces derniers temps, Ben Sebaini, non ? Dans son jeu, il commet beaucoup de fautes, il y a beaucoup de cartons jaunes contre lui.
Il
m'inquiète, quoi.
Je dirais qu'il est beaucoup plus nerveux dans ses matchs, parce qu'il est toujours là au contact, contrairement à certains défenseurs.
Ça, c'est vrai.
Voilà, il est toujours là au contact. Et Ben Sebaini me fait penser à un Gadura, par exemple.
Oui. Ah oui.
Défensivement, il est toujours là, bien placé, malgré certaines lacunes récentes. Mais Ben Sebaini reste toujours Ben Sebaini en équipe nationale.
Est-ce que ce ne serait pas, mine de rien, la future bonne option pour Jamel Belmadi, puisque nous sommes toujours à la recherche de cette fameuse sentinelle, de ce fameux numéro 6, après la retraite de Adeline Guédura, de voir Ben Sebaïni monter d'un cran, on l'a toujours suggéré, et puis donner sa chance à un garçon comme Yanis Hamash du Boavista Porto au poste d'arrière gauche.
Moi je dirais que Ben Sebaïni, on l'a essayé sous l'ère de Madjer en tant que défenseur central, il n'avait pas donné satisfaction, et lui-même il avait dit que je ne suis pas défenseur central de formation et que je préfère évoluer sur le côté gauche, chose que sous l'ère de Belmadi pour l'instant on l'a jamais essayé en défense centrale.
Et je dirais non, peut-être un peu plus que la défense centrale, je dirais
en sentinelle, je pense pas. Je pense pas, parce que c'est pas son poste de prédilection. Ben Sebaïni, c'est un défenseur qui est là défensivement extrêmement fort physiquement, et surtout qui est toujours là aussi offensivement présent. Il l'a montré pendant la CAN 2019.
Il l'a
montré pendant la CAN 2019. Et ensuite, il y a cette complicité avec Belaïli sur le côté gauche, parce qu'on voit Belaïli, par exemple, quand il part, il y a toujours Ben Sebaïni qui découle de son côté pour couvrir les lacunes. Et c'est pour ça que l'équipe nationale encaisse peu de buts de son côté. Par contre, face au Cameroun, on a constaté l'absence de Ben Sebaïni.
Ah oui,
Le but est venu du côté gauche.
On l'a payé cash. Et c'est là que tu vois quand même que on va dire que Jamel Belmadi n'a pas mis en place ce qu'on appelle le plan B sur le côté gauche. Là, on sait que le carton reçu par Ben Sebaïni au match aller a pesé lourd lors du match retour. Hein. C'est une évidence. Hein.
C'est une évidence, et c'est un choix tactique aussi, parce qu'il a choisi de titulariser Youssef Attal alors qu'il n'était pas en forme. Mais on ne va pas critiquer Belmadi parce qu'on ne va pas tirer sur l'ambulance. On ne peut pas aussi titulariser, par exemple, un Touba qui venait tout juste d'arriver en équipe nationale, qui n'avait pas les automatismes pour faire face à un match de cette envergure, parce qu'il y avait énormément de pression. Il y avait des critères qui ont poussé Belmadi à titulariser Youssef Attal, même si c'était la seule option qu'il y avait sur le bon touche. Et l'entrée de Touba à partir de la 60e minute, ça a changé la donne, parce qu'il a apporté cette fraîcheur physique et ce côté gauche, parce que ce côté gauche, on voyait souvent Belaïli, parce que c'était le seul qu'on voyait. Youssef Attal était toujours sur ses gardes. Peut-être c'est des conseils de Belmadi, mais on va pas critiquer Belmadi parce qu'il a titularisé Youssef Attal à cette époque. Mais l'absence de Belaïli, de Ben Sebaïni, on l'a senti dans ce match.
Et d'ailleurs, on le voit notamment lorsque on voit l'évolution d'un garçon comme Youssef Belaïli. Il a fallu qu'il prenne conscience que s'il restait au Qatar, peut-être que Belmadi n'allait pas le rappeler en sélection. Alors regarde ce qui se passe avec Bardet Bounja. Depuis, Bounja, on ne le voit plus en sélection nationale. Alors qu'en 2019, c'était quand même le garçon costaud devant, qui n'a pas peur, qui va en contact. Et là, Belaïli a compris, il vit en Europe. On l'a vu, le travail physique réalisé par le staff de Michel Derzakarian à Brest. Et tu vois un garçon hyper affûté.
C'est bien aussi de rappeler le travail de Michel Derzakarian, mais n'oublions pas que Belaïli avait pris un préparateur physique. Ouais. C'était un préparateur physique personnel qu'il a pris, peut-être sur la demande de Jamel Belmadi, mais qu'on le veuille ou non, Belaïli, c'est du talent brut.
Ouais.
Techniquement, il est extrêmement fort, mais pour qu'il puisse s'épanouir, il a besoin d'être conseillé, d'être entouré. C'est ce qui se passe avec Jamel Belmadi. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand il était au Qatar, il y avait le président de son club qui avait dit « J'aimerais bien voir comment Belmadi motive Youssef Belaïli pour avoir les mêmes prestations qu'il a avec l'équipe nationale. » C'est ça, Belaïli, il y a cette cohésion avec Belmadi. C'est pour ça qu'en équipe nationale, il est là physiquement, il est extrêmement fort. Techniquement, c'est l'un des meilleurs que nous avons dans l'effectif algérien, avec Ounes par exemple aussi. Mais Youssef Belaïli, dans les grands matchs, il est extrêmement présent. Il est surtout percutant sur son côté. Et nous avons aussi un Riyad Mahrez sur le côté gauche. Ce qui nous manque vraiment en équipe nationale, c'est un numéro 10 ou un joueur, par exemple, qui a cette faculté de prendre le ballon et de casser les lignes à travers des passes. C'est ce qui nous manque, parce qu'en 2019, par exemple, on n'avait pas cette construction de balle de derrière. On se reposait beaucoup plus sur le jeu long de Jamel Belhamri. Et je ne sais pas si tu te rappelles aussi, face au Sénégal par exemple, on avait vu beaucoup d'occasions de l'équipe nationale algérienne dues aux longues transversales de Belhamri.
Oui, et derrière, entre les balles comme ça envoyées, les balles envoyées en l'air par Belhamri, et c'est vrai que devant de la tête, que ce soit Slimani ou Bounja, c'est des garçons quand même
qui sont présents physiquement
et qui ont un super jeu tête. c'est vrai que il y avait du répondant. Mais c'est vrai que sur l'histoire de Belaïli, moi je dirais aujourd'hui, quel gâchis toutes ces années.
Moi je me rappelle du joueur Belaïli parce que comme j'ai vécu en Algérie, je connaissais sa carrière.
Absolument.
J'avais vu quand il était à l'USM Alger par exemple, il était très très fort. Techniquement, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat. Et malheureusement, il y a eu cette coupure de sa carrière pendant 2 ans. Mais Belaïli reste Belaïli. C'est un joueur qui est toujours présent. Et même les entraîneurs, par exemple, qui l'ont eu, ils ont toujours dit le plus grand bien qu'ils pensaient de lui. Et Belaïli, c'est à commencer par Belmadi, par les entraîneurs qui l'ont eu à l'USM Alger, en l'occurrence samedi par exemple, quand il était à l'USM Alger. Mais Belaïli, techniquement, c'est l'un des meilleurs joueurs algériens et qui est en activité maintenant.
Tout le monde reconnaît aujourd'hui que le fait d'avoir traîné un petit peu dans le championnat algérien, alors que s'il avait seulement été mieux conseillé.
Il n'a pas beaucoup traîné en équipe nationale, en championnat algérien, parce qu'il est parti en Tunisie.
Oui, mais à chaque fois, non, mais l'excuse de la Tunisie, je ne l'accepte plus.
Il était champion d'Afrique aussi.
Oui, mais, encore une fois, Faudil, tu vas être d'accord avec moi, cette histoire de partir en Tunisie, je ne peux pas l'accepter, parce que c'était la solution de facilité, mais nous, on avait un rêve quand un joueur est formé en Algérie et qu'il aille se frotter dans les championnats européens. Tu pars en Tunisie, ok, etc. Mais tu vois bien que c'est limité à 4 ou 5 clubs en Tunisie. Je regrette, c'est comme ça.
Parce que le problème des joueurs qui évoluent au sein du championnat local en Algérie, c'est un problème profond. C'est un problème d'agent. Parce que ces joueurs-là n'ont pas des agents, par exemple, qui sont influents pour les proposer aux grands clubs. La plupart des joueurs qui évoluent en Algérie, un exemple très simple, Youssef Belaïli, par exemple, c'est son père qui est son propre agent.
Oui.
Ce sont des joueurs qui n'ont pas des agents influents pour les proposer aux grands clubs. C'est ce qui fait la particularité des joueurs algériens. C'est pour ça que la plupart, ils émigrent en Tunisie. Parce qu'en Algérie, ils savent qu'il y a toujours des problèmes d'argent, qu'ils ne vont pas recevoir leur paye jusqu'à la fin.
C'est vrai ça, c'est vrai, tu reconnais.
Il y a beaucoup de lacunes dans le championnat algérien et surtout dans son organisation. Et la plupart des joueurs, maintenant par exemple, ils sont nombreux, Ben Ayada par exemple qui est en Tunisie, sont des joueurs qui ont choisi de partir en Tunisie, de quitter le championnat local au détriment des bonnes conditions. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des bonnes conditions, de toucher leur salaire, parce que ce sont des joueurs qui ont quand même des familles, qui ont besoin d'être bien rassurés par les dirigeants. Et chose qu'ils n'ont pas réussi à trouver en Algérie, c'est pour ça qu'ils ont choisi cet exil.
En fait, c'est peut-être aussi une étape intermédiaire, comme l'avait fait Bounjer qui a fait la Tunisie, puis après, il est parti au Qatar, où là, effectivement, ce n'est plus le même championnat. Au moins, en Tunisie, il y a des clubs comme l'Espérance, le club africain, Sfax, l'Étoile du Sahel, etc. C'est des clubs qui ont quand même une certaine notoriété, ils sont assez costauds. Effectivement, dans ces clubs-là, tu peux dire que tu joues, tu as la Ligue des Champions d'Afrique, et quand tu pars au Qatar, comme l'a fait Bardet Bounjah, oui, financièrement, c'est le jackpot, mais sportivement, ben regarde aujourd'hui, même Jamel Belmadi ne l'appelle plus.
Bounjah, c'est l'un des seuls joueurs, par exemple, l'un des premiers joueurs à avoir quitté le championnat national avec Belkalem. À cette époque, Belkalem est parti en Angleterre et Bounjah a choisi de partir en Tunisie. C'est l'un des seuls joueurs qui est parti en Tunisie. Et une fois qu'il était là-bas, il a confirmé son talent de buteur. Bounjah, même si dernièrement il a perdu cette efficacité, on le voit, tout grand joueur passe par exemple par des moments extrêmement difficiles. On le voit avec Antoine Griezmann en équipe de France, en Atlético Madrid aussi, mais ce sont des joueurs qui arrivent toujours à se régénérer. Et Bounjah, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, même s'il n'a pas apporté cette efficacité, il a apporté ce surnombre dans la surface.
Absolument, ah oui, il faut lui reconnaître.
Et quand on regarde bien statistiquement, il a raté beaucoup d'occasions, mais ce sont des occasions qu'il a créées lui-même. Et Bounjah, quand il était en Tunisie, il a confirmé son talent. Ensuite, le projet qatari lui a plu parce qu'il y avait un entraîneur de renom qui était Xavi. Et comme il savait qu'il allait progresser, c'est pour ça qu'il a choisi Saad. Et ensuite, il est parti directement au championnat du Qatar et il a fait sa carrière. Il est l'un des meilleurs joueurs du club.
Absolument, avec
beaucoup de buts à la clé et beaucoup de passes décisives. Et c'est ce qui fait Bounjah un élément un joueur titulaire au sein de l'équipe nationale avec avec des buts importants, notamment celui de la finale, même si c'est un but casquette. Avec,
ouais, mais ça reste un but.
Mais ça reste un but qui nous a.
On retient but de Bondjiar en finale contre le Sénégal.
Exactement.
Bien sûr, ouais.
Et c'est un but qui nous a donné le trophée, la deuxième CAN de l'histoire de la sélection algérienne.
Très bien, on va marquer une première pause, Fodil. Dans un instant, il y a Boula qui nous rejoint. Vous êtes sur Beurre FM, Foot de Sport, c'est jusqu'à 20h.
Foot de Sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de Sport sur Beurre FM.
Bien, alors, donc c'est alors, Fodil, hein, voilà, mon cher Boula, tu viens d'arriver. Bonsoir d'abord.
Bonsoir Mohamed.
Ah, c'est la course dans le métro parisien.
Ça me fait plaisir de d'assister à cette émission avec toi, moi. La grande école
Oh oui.
De la radio du football algérien.
Ouais.
Sans oublier Bilal.
Ouais. Ben oui, ben bien sûr. Alors, justement, Boula, c'est ton bien. D'abord, merci d'avoir couru aussi vite pour arriver quand même là pour cette émission. Avant de continuer les sujets, je voudrais quand même que l'on aborde le décès tragique de Bilal Benhamouda. Je connais Majid Bougra, tu le connais très bien. Tu l'as eu il y a quelques minutes. Il était comment, Majid, par rapport à ce décès?
Très, très, très abattu, mais tu sens qu'il est, il a vraiment triste parce que ils ont passé beaucoup de bien sportivement du joueur, avec beaucoup de potentiel, beaucoup de qualité. Un gamin vraiment extraordinaire. Et ce qui est, où est le dommage, comme il me dit, Boula, tu te rends compte, il est parti une journée, pas pour aller sortir ou pas aller voir une copine ou quoi que ce soit, c'était pour aller voir sa mère.
Oh là là.
Voilà. Ça, c'est le coup dur de, le coup dur. Bon, après, aujourd'hui, comme je dis à Majid, le Mektoub, que ça soit, tu vois, malheureusement, pour sa famille, mes condoléances à sa famille et pour le football algérien, on a perdu vraiment un gamin qui était à la porte des A et que Majid,
ans, ouais.
Majid a passé des grands moments avec lui et puis il est là, je pense que le dernier match ils le font pas et d'après ce qu'il m'a dit, bon, lui déjà il était abattu complet, je vais te dire franchement, même tout le groupe ils sont vraiment abattus pour le décès de ce petit. En plus de ça, la mort, comment elle a été atroce pour le gamin. Ça a été la voiture, elle a pris en flamme. Il était même en vie, mais le problème, c'est que la voiture, elle a tellement pris en flamme que vraiment, ça a été un gros coup dur surtout pour la maman, vraiment, parce que l'Allahmo, il est parti et perd son âme. Vraiment, je suis vraiment déçu. Bon, hein, qu'est-ce que tu veux, le Mektoub, il a voulu que ce soit ce jour-là et
c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait dit dès le début de cette émission que celle-ci allait lui être dédiée. Et juste quand même un souvenir pour que les gens se rappellent quand même de ce garçon. Alors, je voudrais continuer, puisque on avait parlé un petit peu de ce qui s'est passé en Afrique. On l'a dit, notamment avec Fodil. Aujourd'hui, il y a plus de petites équipes. La preuve, l'Éthiopie qui terrasse l'Égypte, etc. Ou la Côte d'Ivoire qui a eu des problèmes également. Mine de rien, mais malgré tout, Jamal, il fait 2/2, c'est-à-dire 6 points. Avant le troisième match au mois de septembre prochain contre le Niger. Je ne parle pas du match amical contre l'Iran, mais je parle bien sûr des éliminatoires de la CAN.
Moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, avec le Covid, les 3 ans qu'on a eu là de Covid, je pense que au niveau compète, dans le haut niveau, je pense qu'il y a des joueurs, ils ont perdu 50% des moyens de leur qualité par rapport à ce qui se passe dans le monde et par rapport au Covid. Et les résultats sportifs, ça a bloqué. Dans l'évolution du football, comme le football, il a été éteint pendant un an, et je pense qu'on paye un peu le système médical mondial du Covid, et ça ressentit sur les grands joueurs, même sur les pros, même sur le football international.
On le voit déjà à travers, ne serait-ce qu'à travers la Ligue des Nations ou les grandes nations. Passe-moi l'expression, les jeux de monde ne sont pas au rendez-vous là. L'image de l'équipe de France, etc. On voit des grandes nations qui sont un petit peu en deçà même de leur valeur intrinsèque.
J'en veux un peu Arsène Wenger qui voulait faire de tous les Coupes du Monde tous les 2 ans.
Ah oui.
Mais je pense que l'UNFP a crié au scandale là, il n'y a pas longtemps, sur 10 jours, là, une semaine, 10 jours, qu'on crie au scandale. Les joueurs, physiquement, ils n'en peuvent plus. Je pense que la compète, le national, tout ça, c'est que du business, c'est que du... Mais Il y a un gros problème là-dessus. Je pense que les joueurs, à un moment donné, faut qu'ils se mettent en grève pour les compètes. Là, c'est pas possible de continuer comme ça par rapport à leur santé. Quand on parlait de Kylian Mbappé, qui est un des plus grands joueurs du monde, et je pense qu'il doit être à un moment physiquement et mentalement un peu sur les rotules. Quand tu vois Benzema, la saison qu'il fait, faut pas s'attendre à des joueurs aujourd'hui.
Ils ont besoin de souffler. Quand même.
Voilà.
Alors, c'est des humains. Moi, je le vois comme ça.
Et puis, quand tu parlais de l'évolution du football africain, c'est sûr que il y a des pays en Afrique qui n'ont pas fini de progresser, qui travaillent et qui bossent dur. Il y a des gros centres de formation, que ce soit au Bénin, le Mali, le Sénégal.
Le Congo aussi.
Voilà, le Congo. Ils travaillent tous dans le sens de la progression du football, les Africains. Bon, après, c'est quand même un sport très, très médiatique dans l'Afrique. C'est un petit peu l'opium un peu des
peuples africains. Bien sûr, oui. Alors, j'ai une question toute simple. Maintenant, aujourd'hui, on veut avoir la meilleure équipe. Mais pour avoir la meilleure équipe, il faut aller chercher les joueurs. Là, on peut les trouver. Les nations africaines, la plupart, vont les chercher, on va dire, en Europe. Aujourd'hui, au niveau Maghreb, on le voit, la difficulté à convaincre, notamment les binationaux, un sujet que Boulad, tu maîtrises bien, notamment l'affaire Delors, l'affaire Aouar. Quelle est ton opinion aujourd'hui sur ces joueurs qui sont aux portes de l'équipe d'Algérie, mais qui, malheureusement, pour l'instant, c'est j'attends de voir, wait and see, comme on dit en anglais.
Moi, il y a deux points sur ces deux joueurs. Oui. Moi, je pense que Delors, il n'y a pas lieu de faire appel à lui, parce que j'estime que quand tu prépares une Coupe du Monde, tu prépares des matchs. Et bon, le fait de l'élimination, peut-être que la touche Delors nous aurait fait du bien. Alors le fait qu'il ne vient pas pour les qualifications de Coupe du Monde, déjà je trouve ça inadmissible qu'on parle de lui, qu'on le rappelle, parce que il a pris une décision entre sa vie privée, son championnat, ou qu'à un moment donné se consacre, et son business, parce que c'est leur gagne-pain et c'est leur business.
Oui.
Tu peux pas aujourd'hui attendre après tous les joueurs de l'équipe nationale. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui Majid Bouguera, il est avec la prime pour former des joueurs, parce que au moins ça sera des joueurs qui nous répondent présents. Alors, moi, ce qui est de Aouar, Aouar, j'estime aussi, c'est pareil, c'est le même. Il est dans la même situation, mais plus malin, plus intelligent.
Non,
il s'est pas rendu compte. Il savait très bien ce qu'il fait. Moi, je pense qu'à l'âge qu'il a, il sait très bien ce qu'il fait. À un moment donné, il fait un choix que je respecte son choix. Il a voulu choisir les A, et je trouve ça la FIFA. Moi, c'est là où la FIFA, je leur en veux un peu, au niveau de l'Afrique. Faut qu'il arrête de nous inventer des lois, ou que maintenant, celui qui porte le maillot des A peut aujourd'hui prendre.
Alors, attention, si c'est un match amical, hein, parce que c'est la fameuse jurisprésence Mounir Haddadi.
C'est rien à voir avec le match amical. C'est au niveau, ça a été, même si c'est un match de compète ou de haut niveau, ils ont le droit, au bout de trois matchs, ils ont le droit de prendre une décision. Mais ça, la FIFA, ils nous embêtent déjà. Déjà, ils nous ont fait des lois, parce que faut pas oublier que quand tu formes des espoirs, des pays africains, je pense que ces espoirs-là, ils vont pas attendre que le joueur espoir de l'Europe puisse, à un moment donné, ils sont dans un rouage où à un moment donné les mômes ils travaillent pour aller en A.
Oui, c'est ça.
Et tu peux pas aujourd'hui, c'est deux poids deux mesures. Aujourd'hui tu es obligé de respecter un petit peu la formation, et tu es obligé de respecter. Nous les Africains, si on veut se faire respecter, que le gars, il a le droit de choisir la France, il a le droit de choisir l'Espagne, il a le droit de choisir l'Italie. C'est son choix qu'on doit respecter. C'est normal. Et bon, faut pas jouer entre les deux pays.
Mais ça, Boula, c'est parce que, et là, Faudel, je sais que au niveau juridique, tu as suivi ça. Cette affaire de Mounir El-Haddadi, qui était au Barça, ensuite qui a été convoqué en équipe d'Espagne. Je crois qu'il a dû jouer un match, et puis, ou deux, merci pour la précision. Et après, on l'a plus jamais rappelé. Et lorsque, je crois que c'est Vaïd, quand il est arrivé dans l'équipe du Maroc, à ce moment-là, le patron de la Fédé marocaine, et qui est quand même vice-président à la FIFA et premier vice-président de la Confédération africaine, ont pu jouer pour mettre en place, après la fameuse initiative qu'on a dit, le projet Arawara en 2009, On parle maintenant de la jurisprudence Mounir Al-Haddadi.
Ouais, mais c'est un projet qui nous fait mal. Hein. Le projet, alors ouais, c'est un projet qui nous fait mal. Parce que tu le regardes aujourd'hui comme ça, ils sont indécis. On leur a accordé ça. Et c'est pas un projet qui fait avancer le football africain dans la progression. Après, faut pas, à un moment donné, faut pas se servir de certains joueurs qui jouent en Europe. Je pense que la société africaine, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de bosser, et ils ont le droit d'avoir leur chance, comme les émigrés qui sont en Europe et qui progressent dans des pays, dans les pays où ils ont grandi. Tu peux pas, à un moment donné, accepter des choses sur. Ça veut dire que, finalement, les Africains, ils auront jamais une chance de s'épanouir dans l'équipe A, parce qu'il y a d'autres qui ont grandi dans les pays, en Espagne ou en Italie, qui ont fait des choix. Mais moi, je respecte ces choix. Moi, je pense que le joueur du Barça, là, que tu me dis, qui a fait deux matchs, et aujourd'hui, le Vaïd, il veut le prendre.
Ça y est, maintenant, ça y est, il a rejoué pour le Maroc.
Il se met en embrouille avec Ziyech. Il se met en embrouille avec Ziyech, qui est un mec qui a toujours porté le maillot de l'équipe nationale du Maroc. Et après, il va chercher un mec qui a fait deux sélections. Mais il y en a un qui s'appelle Ziyech. Depuis l'âge de 17 ans, 18 ans, quand on lui a dit de venir jouer au Maroc, il est venu en courant. Il n'a pas attendu d'être. Pourtant, il aurait pu être.
Dans l'équipe des Pays-Bas, c'est vrai.
Il aurait pu être international à un moment donné, parce qu'il avait une cote.
Oui, parce que même
il a fait la Ligue des Champions, c'était un joueur de l'Ajax.
Rappelle-toi même Marco van Basten, quand il était fou de rage, parce que justement Ziyech avait choisi le Maroc à la place des Pays-Bas. Tu te souviens de cette brouille où il a dit c'est pas normal en forme des joueurs et puis qui partent dans les pays d'origine. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur cette
Iril Méziane, que tu connais bien,
ouais,
qui a été en équipe nationale, qui reste quand même un des grands entraîneurs en Algérie. Iril Méziane, une fois j'avais une discussion là-dessus sur les binationaux, et il me dit mais Boula, comment tu veux que je fasse? Tu veux que j'attende après les binationaux? Les binationaux, ils sont indécis. Je préfère former mes joueurs ici en Algérie. Au moins, quand je les appelle, ils viennent en courant. Mais
Mais pour les former, déjà, il faut avoir beaucoup de moyens. Sauf que nous, en Algérie, on met pas énormément de moyens dans la formation.
Il y a beaucoup, beaucoup de moyens. Quand t'as des salaires entre 7000 et 10000 euros par mois, j'estime, si t'as pas les moyens là, tu regardes des salaires, que ça soit au Mali ou au Sénégal ou quoi que ce soit, ils ont pas des salaires entre 7000 et 10000 par mois. Le problème, c'est que les présidents, ils ont pas fait le travail que Zetché a fait. Et en plus de ça, Zetché, c'est son argent personnel. Alors, ils sont tous là en train de se critiquer. Et quand je vois Zetché, moi, les joueurs qu'il a sortis, je suis d'accord avec toi. Mais l'argent, il y en a. Mais elle est mal servie.
L'utilisation, bien sûr.
C'est là où je peux être d'accord avec toi. Mais par contre, l'argent en Algérie, il y en a.
La question qui reste posée, est-ce que ces clubs-là investissent dans l'information? Ils investissent pas dans l'information. Ils préfèrent recruter des joueurs, des grands noms du championnat algérien, comme l'UMCA, par exemple.
C'est ça, l'UMCA ne fait que recruter.
Je t'explique. Le football européen, je connais un peu, c'est le même système. C'est le même système. Tu regardes Lens, aujourd'hui, il faut venir des joueurs de l'extérieur. Et c'est des joueurs de plus-value. Par contre, aujourd'hui, tu regardes, sur deux ans, il y en a qu'un qui a réussi. Ce qui veut dire par là, c'est que tu formes. En Algérie, ils forment. Il y a des éducateurs qui forment, qui font du bon travail. Mais le problème, c'est qu'entre 18 et 21, on préfère, comme tu dis, chercher des, où il y a des mouvements sur des gros dossiers, sur des trucs, ou qui puissent avoir un peu plus d'argent sur les mouvements d'argent.
Mais est-ce que ces clubs en Algérie, est-ce qu'ils lancent des jeunes joueurs qu'ils recrutent eux-mêmes? Je les vois pas, par exemple. La JSK, bon, c'est le seul club qui a lancé un Nesla qu'ils ont formé eux-mêmes. Mais les autres clubs.
C'est TIF quand même.
C'est TIF, oui. Ouais. Mais les autres clubs, ils investissent pas dans la formation.
La JSK, c'est plus le club. Aujourd'hui, c'est plus qui a pris la place, comme il dit. Ouais. C'est TIF.
Ah oui.
C'est TIF, tu sens que. Bon, après, ils font un recrutement.
Les Amour dans l'organe, etc.
Mais après, t'as le Harrach.
Oui.
T'as le MCO. Ouais. Le Harrach, c'est quand même.
C'est une école, Harrach. Ouais, c'est une institution.
C'est une école, mais il y en a un qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, l'entraîneur qui était exceptionnel, qui était fort pour récupérer les jeunes d'Algérie.
Ah oui, c'est Mustapha Beskiri.
Non. C'est mais vraiment un mec.
Oui, je vois, je sais que je vois à peu près la tête de.
Boualem Sharif,
merci.
Voilà. Un des plus grands.
Oui.
Un des plus grands entre la préformation et les pros. Je pense que c'est la personne qui a fait le plus gros travail dans le football algérien.
Et pourquoi on ne met pas Boualem Sharif comme étant DTN. Un DTN en Algérie?
Bah, le problème, tu sais.
J'ai l'impression qu'il a même disparu du circuit.
Oui, on il a disparu plus. Parce que le problème de Boualem Cheref, c'est qu'il a sa philosophie. C'est pas un, je pense, c'est pas un bini-oui-oui, Boualem Cheref. Boualem Cheref, c'est quelqu'un qui travaille, qui a de la rigueur, dans la formation, qui a de la rigueur. Moi, pour moi, c'est une référence dans le football algérien. C'est vrai, comme tu dis, on parle pas beaucoup, de lui. Ouais. Après, je pense que Ben Mahdi ou Bouguera, je pense que le poste de DTN, normalement, il doit revenir à Boualem Cheref.
Ouais.
Il doit revenir à Boualem Cheref par rapport à tout le travail qu'il a pu faire dans le football algérien.
Ouais, c'est mérité, ouais. Très bien, on va marquer une seconde pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant. Et on va notamment aborder, encore une fois, le volet de ces futurs qui, pour rejoindre l'équipe d'Algérie, pour renouveler notamment un tant soit peu l'effectif vieillissant et les perspectives que peut avoir Jamel Belmadi avec ses nouveaux joueurs. Et encore une fois, comme on l'a précisé, comme tu l'as dit d'ailleurs, Boula, est-ce qu'ils sont prêts aussi à aller affronter les équipes africaines sur leur propre terrain, comme le font les joueurs actuels qui vont en Tanzanie, qui vont en Congo, en Côte d'Ivoire, etc. C'est ce que nous allons développer dans cette troisième partie d'émission. À tout de suite.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Et oui, je vous l'ai dit, hein, c'est une émission qui passe très très vite. Bah tiens, puisqu'on parle de ces fameux footballeurs. Alors, un footballeur, par définition, on va dire, c'est un homme qui s'exporte. Quel que soit le championnat dans lequel il évolue. On dit l'Algérie, oui, l'Algérie exporte très très peu de joueurs. C'est vrai, vers le Moyen-Orient, vers la Tunisie, comme l'a rappelé Fodil tout à l'heure avant l'émission, etc. Mais même la première partie de l'émission. Pour aller en Europe, moi je suis au regret de dire que, mis à part Zetchi qui a envoyé quelques joueurs, on pense notamment à Atal, Boutaoui, etc., il y en a eu d'autres, mais les autres clubs aujourd'hui n'arrivent pas à sortir des joueurs vers l'Europe. Après, quand on est sélectionneur, et puis qu'on s'appelle Jamel Belmadi, on veut recruter des joueurs performants. Et il sait très bien que dans son championnat, malheureusement, il n'a pas de joueurs performants, Odile.
C'est pas qu'il n'a pas de joueurs performants. Pour être performant, il faut avoir des conditions. Et nous, en Algérie, on n'a pas les meilleures conditions. On met pas les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent exprimer leur talent.
Ça, c'est vrai.
C'est pour ça qu'ils partent en Tunisie. Et c'est pour ça qu'ils partent au Maroc. Un Gaïem Albar, par exemple, il a choisi de partir au Maroc pour développer son talent. Et c'est ça. Parce que les joueurs algériens, ils ont toujours ce problème à la fin de leur contrat. Ils sont jamais payés. Soit ils négocient avec leur président comme quoi on va vous libérer, mais par contre il faut céder 6 mois. Ça se passe toujours comme ça, que ce soit dans les meilleurs clubs en Algérie. Et c'est pour ça que Belmadi choisit de regarder ailleurs, en Europe ou dans les autres championnats européens, pour qu'ils puissent détecter de nouvelles pépites. Parce que
qui n'ont pas de problèmes psychologiques, notamment qui sont liés à cette histoire d'argent, cette histoire de salaire, tout simplement.
Un Ben Ayada, par exemple, quand il était en Algérie, on n'entendait pas parler de lui. Quand il était au CSC, on n'entendait pas parler de lui. Mais quand il s'est exporté en Tunisie, il a développé son talent. Et pendant la Coupe arabe, on a découvert un bon joueur, même s'il il y a quelques lacunes sur son alignement. Mais par contre, il reste un très très bon joueur. Et c'est un joueur qui a dépanné quand on avait besoin de lui. Quand Youssef Attal était blessé, il était là. Face au Cameroun, on n'a pas eu beaucoup d'attaques.
Il a fait la faute qu'il fallait pas faire, quoi.
C'est ça, ouais, mais football, après, quand tu dis il a fait la faute qu'il ne faut pas faire, il a raison de parler de Ben Ayada. Ouais. Après, quand tu regardes Ben Ayada, c'est vrai que le potentiel qu'il avait quand il était en Algérie. Alors, ce qui est dommage, c'est que l'Algérien, il n'a pas cette valeur marchande que certains Africains. Et tu l'as même en France. Les Algériens, quand tu proposes des Algériens aujourd'hui, celui qui est en valeur le plus, que ça soit en Europe, c'est l'Africain.
C'est qu'il est rien net.
Voilà, c'est l'Africain. Oui. Il a un des avantages. Par contre, l'Algérien, il est différent parce que il éclate tard, et quand je regarde Riyad Mahrez en France, quand il est parti de la France, il est parti pourquoi au transfert? Il est parti pour 400 000 euros. Oui. C'est une bouchée. Il avait pas cette crédibilité. Mais la chance qu'ils ont, les certains footballeurs algériens, et tu regardes. tu regardes, même tu prends un joueur comme même à l'époque, comme Ben Arbia, qui était un des meilleurs passeurs, meilleurs passeurs du championnat de France. Ben non, il y avait un Zizou, mais il y aura jamais eu un deuxième Ben Arbia.
C'est ça.
Ils ont pas voulu faire un deuxième Zizou. Et ça, c'est, moi, je pense qu'il y a, c'est des calculs. Moi, pour moi, c'est des calculs. Parce que quand tu vois le certain talent des joueurs, après, aujourd'hui, c'est peut-être là où est le problème par rapport aux joueurs qui jouent en France. Même les clubs français, ils veulent pas que leurs joueurs aillent en équipe d'Algérie, leurs franco-algériens aillent en équipe d'Algérie. On les boycotte. Quand c'est comme ça, on les boycotte. Ça veut dire qu'ils sont dans des situations. On l'a bien vu sur la négociation de Delors. C'était, on prend un Nice, mais on te donne un bon salaire, mais t'oublies l'équipe d'Algérie. C'est un petit peu les discussions qu'ils ont, les joueurs. Et puis, que ça soit des joueurs comme Aouar ou des joueurs comme Amine Gouiri, c'est sûr qu'on parle d'une autre génération à construire. Parce que c'est sûr que quand tu regardes une autre génération à construire, je pense que l'entraîneur de l'équipe nationale aujourd'hui, c'est pas évident
Mais je vais te poser cette question très pertinente. Pourquoi, je dis bien pourquoi, un joueur algérien, lorsqu'il quitte le championnat de France, qu'il part par exemple en Angleterre, en Italie, il n'a aucun mal à rejoindre l'équipe d'Algérie. La menace, elle est toujours en France. Pourquoi c'est en France
qu'ils ont le plus peur? Les Anglais aussi, pareil. C'est les Anglais aussi un peu pareil. Parce
mais
que,
c'est pas.
Non, mais après, t'as le footballeur algérien qui a la cote. Après, tu sais, dans le footballeur algérien, t'as le joueur algérien et t'as le Ramadan. C'est-à-dire, et après, t'as la Coupe d'Afrique.
Oui.
Non, mais t'as la Coupe d'Afrique. Le problème, c'est que quand t'arrives en période de Ramadan, il faut pas le Ramadan, les entraîneurs, ils disent, ouais, putain, il fait le Ramadan, je perds des points. Galtier, c'est ce qu'il a dit. Hein.
Oui.
Et nous avons vu ça aussi à Liverpool avec Jurgen Klopp qui avait fait une déclaration maladroite et ensuite il s'est excusé. Ça veut dire, il y a pas, ce problème ne réside pas spécialement. Qu'en France. Par contre, on le voit dans les autres championnats, même dans les autres grands championnats.
Comment il s'est excusé, c'est-à-dire?
Il avait fait une déclaration sur Sadio Mané due à la Coupe d'Afrique, comme quoi c'est un petit championnat, et ensuite il s'est excusé.
Oui, bien sûr.
Ouais, mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il peut dire ça, mais dans l'autre sens, quand Sadio Mané lui a chopé l'entraîneur et le capitaine, il lui a dit, est-ce que vous pouvez décaler les entraînements par rapport au Ramadan? Ben, Jurgen Klopp, il l'a fait.
Oui, ça c'est vrai.
Voilà. Et Jurgen Klopp, il l'a fait. Maintenant, le problème de la Coupe d'Afrique, c'est encore la FIFA. Faut le comprendre un peu, Klopp, quand il dit ça, parce que faut le comprendre. Au niveau quand tu prends la Coupe d'Afrique, elle est en décembre. Elle est en plein match des footballeurs européens. Ça veut dire que le football européen, on en a rien à foutre, on le met en décembre. Mais je sais pas quand la Coupe d'Afrique était en été l'année dernière, il y a pas eu de problème.
À la base, justement, tu as raison de soulever ce point parce que on était censé organiser la CAN en fin de saison comme
en 2019.
Comme le championnat du monde. Les Argentins quand ils font quand ils font le truc, ils le font l'été. Ça veut dire que tu risques pas d'avoir le problème. Exact. Après, faut te mettre à la place de Klopp. Moi
je peux comprendre. Et là le Cameroun,
personnellement, ils ont de la chance. Il a même pas à s'excuser. Je te le dis franchement, il a même pas à s'excuser. Aujourd'hui, le problème du football, c'est la FIFA, parce que la FIFA, elle est gérée par des intellectuels. Elle est pas gérée par des footballeurs qui sentent le football, qui comprennent le football. Le seul mec qui avait de compétents et qui avait des qualités, c'était Platini.
Ouais.
C'était Platini, mais lui qui était contre la vidéo, qui était contre plein de trucs. Et quand tu vois le problème des vidéos aujourd'hui, il y a plus de problèmes quand il y a la vidéo que quand il n'y en avait pas.
Oui.
Alors
et c'est là, donc là tu as raison sur point calendaire. Je suis entièrement d'accord, parce que quand on a voulu harmoniser les calendriers, savoir que les grandes compétitions internationales vont se jouer en fin de saison, y compris la CAN, etc. En fait, c'est pour ne pas pénaliser les clubs. Ensuite, il y a eu l'avènement de ce chamboulement au Covid-19 notamment, qui a fait que cette CAN du Cameroun, finalement, a été programmée en hiver, alors qu'au tout début, au départ, malgré les pluies, etc., on avait dit elle se jouerait, je crois, vers mai-juin, un truc comme ça. Il se trouve qu'on l'a rejoué sur janvier-février. C'est vrai que ça touche les championnats européens. On sait que la prochaine CAN 2023, elle a lieu en Côte d'Ivoire. J'espère simplement qu'on va revenir à un calendrier normal pour éviter tous ces problèmes que les joueurs peuvent avoir avec leur club. Éviter qu'un joueur de la trempe de Mahrez ou de Mané s'absente 4 semaines en hiver pour rejoindre la sélection. C'est vrai, c'est aussi un problème parce que ils sont avant tout salariés du club et non de la sélection.
Mais c'est un problème qui date de depuis la nuit des temps.
Ah bah bien sûr.
Et la FIFA ne fait rien pour changer la donne. Ouais. C'est ça la question qu'il faut se poser.
La FIFA, elle veut une Coupe du Monde tous les deux ans. Non, mais
la FIFA, quand ils gèrent un business. Ils gèrent
voilà, exactement.
Le mal-être. Tu veux que je te dise, leur business, la FIFA, c'est l'Europe. C'est l'Europe la preuve. La Ligue des Nations, là, qui sont en train de faire. Pour moi, c'est
La Ligue des Nations.
Je la regarde même pas. Non, mais je la regarde même pas parce que ils sont en train de. Oui. Le football, ils sont en train de le tuer. Oui. Je sais pas, c'est aujourd'hui, il y a un championnat qui a terminé. Il y a une Coupe du Monde qui arrive dans 6 mois. Oui. Ça veut dire que tu vas enchaîner les joueurs au niveau médical. C'est que du business. On le voit bien que c'est que l'oseille. Et tu peux pas aujourd'hui, à un moment donné, si vraiment les gens qui aiment le football, si pendant la Ligue des Nations ils éteindraient la télé, ben ils comprendront que le football ça sert à rien. Ce football ça sert à rien.
Et je dirais même, ça leur fera le plus grand bien parce que le fait justement de ne pas regarder trop la télé. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le football appartient aux diffuseurs, il appartient aux télévisions, et que je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la période Covid, quand on n'a pas eu de match pendant l'été, on avait le droit des rediffusions à nous chercher des matchs des années 70, 80, etc. Mais tellement qu'ils n'avaient rien à diffuser, donc ils se sont dit, pourquoi ne pas prendre cette décision de proposer quasiment des matchs tous les jours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous regardez les applications, tous les jours, vous avez des matchs. Bon, à la fin, vous en avez marre. C'est du gavage. On n'est pas des oies, on n'est pas des canards mulards. Après,
tu vois, la chance qu'on a d'avoir une radio comme Beurre FM, c'est d'exprimer sur les vrais sujets de réflexion par rapport à la santé des joueurs, par rapport à la gestion du football. Tu regardes que ça soit l'équipe 21 ou que ça soit des chaînes comme Canal Plus ou truc, il y a pas d'émission sur une lassitude où les joueurs s'expriment sur vraiment je suis content que l'UNFP a tapé sur la table là, par rapport à la santé des joueurs.
Heureusement,
Kylian Mbappé, il s'est presque, on le disait, tiens, c'est des ligaments. À un moment donné, ils ont tous eu peur. Mais le problème, c'est que t'as peur. Aujourd'hui, tu prends un mec comme Benzema. Moi, quand je le regarde, Benzema, je sais pas comment il fait pour garder cette lucidité de talent. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Tu peux pas. C'est le cerveau, il est trop emmagasiné.
Peut-être justement qu'il a cette faculté à emmagasiner au niveau mental.
Encore lui, il est à fond. Mais quand tu regardes Messi. Aujourd'hui, Messi, non, mais quand tu vois Messi, Messi, tu sens vraiment, il prépare sa Coupe du Monde. Ouais. Il est à 35%. Il est à 30, mais il se balade, il est en train de marcher. Il dit, voilà, je suis Messi, tac, tac, tac. Mais là, je pense que les 3-4 derniers mois avant la Coupe du Monde, il va accélérer. Je pense qu'il va nous faire une Coupe du Monde exceptionnelle. Et ça a toujours été dans les grands internationaux en Europe. Il se prépare toujours. 6 mois à baisser le pied pour se préparer en Coupe du Monde. Tu verras que là, les 6 premiers mois qui arrivent, ben, ils vont tous baisser le pied pour pas être blessés, pour être présents à.
Absolument.
Parce que eux, ils adorent le plus pour un joueur de foot, c'est la Coupe du Monde. Et en revenant à Fodil, ce qu'il disait par rapport à la formation en Algérie, c'est là où je lui donne raison. C'est vrai que. Après, c'est les manques de compétences, c'est les manques. Je pense que l'autre fois, on fait venir un joueur comme Batelli à la DTN.
Oui.
Attends, Batelli, c'est qui? Fait venir Guy Lacombe, qui a connu la formation, qui a formé Zidane. Fait venir des vrais grosses têtes du football. T'as les Jean Fernandez qu'on formait. On va te chercher des mecs qui n'ont pas un aura dans le football français. Mais tu, je sais pas, Guy Lacombe, tu connais,
bien sûr.
Jean Fernandez, tu connais,
oui,
c'est quand même des
mecs
qui comprennent. En plus de ça, Jean Fernandez, c'est le mec, même s'ils ont un certain âge, ils peuvent apporter un plus, comme tu dis, à la formation des entraîneurs, ils peuvent faire des audits sur des trucs. Mais le problème, c'est que ces audits-là, on les fait pas. Aujourd'hui, tu regardes Jamel Belmadi, il a qui comme adjoint?
Serge Romano.
Serge est quand même un grand numéro 2 du football français. C'était le numéro 2 à Alain Perrin. Il a pas été prendre n'importe qui. Et Perrin, tout Perrin à un moment donné, sur le, comme il me disait Karim, quand je m'entraînais avec Perrin et Romano, et ben le travail de Romano, c'était de préparer ses joueurs sur le terrain, et Perrin arrivait juste pour faire l'équipe.
En parlant de Karim, c'est bien sûr Karim Ziani.
Après, quand tu discutes avec les joueurs, tu sens la touche de haut niveau. Et je reviens à ce qu'il dit Foudil, c'est vrai que on met pas vraiment d'un. C'est, je crois que c'est même pas.
Mais vous voulez, nous, par exemple, en 2014, il y avait Christian Gourcuff, l'équipe nationale. Et Christian, moi, je me rappelle, j'étais en Algérie, Christian Gourcuff avait envoyé des convocations à tous les entraîneurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour une formation. Il n'y a aucun entraîneur qui s'est présenté. Ça veut dire que ce sont des entraîneurs qui ne veulent pas développer le football local. Et c'est pour ça que ces joueurs-là s'exilent. C'est très simple. Et ensuite, nous, on remet toujours la faute sur l'État, sur les institutions, sur les infrastructures. Parce que quand on regarde bien, les moyens, ils les ont. Du moment qu'ils payent.
L'État donne les moyens, la vérité.
Voilà. Du moment qu'ils payent des entraîneurs.
Ils ont les moyens.
Voilà. Du moment qu'ils payent des entraîneurs à coups de millions, automatiquement, ils peuvent investir. Est-ce que nous n'avons pas des entraîneurs en Algérie? Si. Il y a Boualem Chalouf, un exemple. Il y a Eril, un autre exemple. Jamel Mned. Ce sont des entraîneurs qui ont cette faculté pour former une jeunesse. Et c'est pour ça que nous, en Algérie, en ce moment, en milieu de terrain par exemple, on est obligé d'aller explorer les autres championnats européens pour trouver des pépites.
Par contre, il y a un truc, moi, quand en venant à ça...
On arrive à la fin, on arrive à la fin de la première heure, on va marquer la dernière pause. Il y a Malik qui nous a écouté du standard. En attendant, bien sûr, que l'Internet soit remis en Algérie, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des épreuves d'examen, donc l'Internet est coupé. Et je ne peux pas avoir mon correspondant pour parler des Jeux méditerranéens. J'espère qu'il aura mon message d'ici 19h30. C'est vraiment un peu cocasse comme situation. Mais bon, si vous voulez, c'est comme ça pour éviter la triche.
Faux de sport revient dans un instant sur Beurre FM. 18h, 20h, Faux de sport avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Allez, deuxième heure de Foot de Sport. On peut démarrer avec vos appels. Bien entendu, on va continuer nos sujets de discussion avec Fodil et avec Boula, puisque nous sommes dans des sujets passion. La fin de saison est là. En fait, juste avant de prendre Malik Fodil, oui. Un petit rappel pour nos auditeurs, c'est que ça y est, le championnat d'Algérie est terminé avec le CRB qui est déjà champion depuis un bout de temps.
La JSK en deuxième place.
Et c'est la JSK qui prend cette fameuse deuxième place.
Qualificatif pour la Ligue
des Champions. Grâce à ce petit point, on en discutait la semaine dernière tous les deux.
Exactement.
Je dis, tu verras, bon, ça se terminera par un match nul. La preuve, c'est que l'équipe de Saoura a gagné son dernier match et du coup se retrouve à un point de la JSK.
60 points. Et la JSK, elle a 61 points au compteur, comme la saison dernière. Par contre, la saison dernière, elle a fini 5e et cette saison, elle finit 2e.
Ouais. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, on s'était un petit peu inquiété aussi pour ce club. Et je pense qu'ils ont fait une bonne deuxième partie de saison. La preuve, bon, mais à part le couac contre le CSC à domicile, où d'ailleurs personne n'a rien compris à ce match, on dit toujours que la GSK, elle est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur que chez elle. On se pose également des questions, pourquoi? Et au final, bon, le club, malgré tout, est là. Bon, on essaye maintenant qu'il nous redonne un peu plus de joie, parce que c'est quand même un club, c'est une identité, c'est un symbole. La JSK, qu'on le veuille ou non, reste la JSK. C'est le club le plus connu en Afrique.
Le plus titré en Algérie.
Ah oui, moi j'ai l'occasion de rencontrer des Africains de toute nationalité. Quand je leur dis que je suis algérien, quand on parle de foot, le premier mot qui vient à la bouche, c'est JSK. C'est pas un autre club.
JSK, c'est une institution. Connu, ouais. C'est une institution, et malgré la saison qu'ils ont vécue, ils ont vécu une saison extrêmement compliquée, avec le départ de Mlel,
chef Mlel. Il a été mis de façon juridique.
Hein, exactement. Et il a été remplacé par Yali Chen. Oui. Et ensuite, la nouvelle direction a libéré beaucoup de joueurs. Ils ont fait venir aussi d'autres joueurs, mais des joueurs d'expérience, en l'occurrence Bourhanchouch, qui connaît bien la maison. Ben Sayer, même s'il n'a pas fait une très bonne saison à la JSK, on ne sait pas pourquoi, mais il a apporté quand même sa touche. La JSK revient de loin et c'est une deuxième place complètement méritée et c'est une place qualificative pour la Ligue des Champions et la JSK retrouve son fief.
Mais par contre, Karim Ziani, je crois que c'était cette année
qui tout à fait. Oui,
il a été remplacé par Kaït.
Il me disait beaucoup de bien du président, qui me disait que c'était quelqu'un qui était qui voulait faire vraiment des belles choses dans le football, qui est un truc. Après, il est pas resté parce que bon, c'est pas évident sur les sponsors, tout ça, parce que le mec il est là, il déjà il est en place aujourd'hui et il revient fort avec cette finalité de Ligue des Champions. Tu sens que dans le club ils ont pris une autre ampleur qu'il y avait avant. Et je crois que c'est une autre construction de la JSK qui finira dans les beaux jours dans les trois années à venir. Les succès qu'ils ont eu pendant quand ils ont régné l'Afrique et qui nous ont fait plaisir. C'est un club qui nous a fait plaisir parce que qui représente l'Afrique. Mais après il y a un petit détail que je voudrais soulever, qui est émigré. Je pense qu'on fait pas appel à des entraîneurs algériens qui sont en Europe.
Merci de soulever ce problème.
Voilà. Et aujourd'hui, on peut dire félicitations à un joueur marocain qui a gagné la Ligue des Champions.
Oui.
Qui est un produit footballeur français, qui a fait toutes ses classes en France et qui a entraîné le FUS. Qui a entraîné le FUS et qu'aujourd'hui il a.
Je sais parce qu'à l'époque il a entraîné le FUS. Voilà. Et il a joué contre Nasser en Coupe d'Afrique.
Voilà, il a joué contre Nasser.
Oui,
en
le mob contre
donc
le FUS.
Nasser a eu un problème avec
Gassama.
Il a eu avec Gassama et il a eu un autre problème avec par rapport à. Il lui manquait sa licence.
Oui.
Pour faire valider sa licence et il m'avait demandé d'appeler Nasser Larguet et il en voulait un peu à Nasser Larguet. Ouais. Mais quand tu regardes Walid Redraghi aujourd'hui.
Voilà, c'est du
truc. Aujourd'hui qu'on peut féliciter quand même, c'est quand même un joueur qu'on a connu en France, qui a joué dans le football français et qui travaille depuis des années en tant qu'entraîneur. Je dirais même c'est les mêmes profils qu'Alou Diarra, que Djamel Belmadi, que Walid, qui vient gagner la Ligue des Champions. Et c'est pas des joueurs. Ce qui est bien, c'est que c'est pas des joueurs qui font France direct l'équipe nationale. Il a fait France, il a travaillé en tant qu'entraîneur au FUS. Et aujourd'hui, quand tu regardes la récompense, la richesse du travail, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Je pense qu'il faut, à un moment donné, faut qu'on fasse appel aussi à des entraîneurs, même pour la formation algérienne.
Ils sont nombreux.
Ils ont une richesse. Ils ne veulent pas, à un moment donné, je sais pas, ils veulent pas.
Oui, faut dire. Et n'oublions pas aussi l'épopée de Nasser Sanjak en 2016 avec le MOB de BGR.
Ben oui.
Il a réussi à qualifier le club avec 14 joueurs.
Oui, 14 joueurs. Oui.
14 joueurs avec deux gardiens de but. Ouais. Et c'est l'épopée de Nasser. Ouais. Il a réussi quand même à tenir en tête au tout puissant Mozambique à cette époque.
Ah oui,
en 2016.
C'était l'équipe puissant, hein, vraiment.
C'était l'équipe du Congo à cette époque-là avec Samata en attaque.
Samata qui est toujours dans l'équipe de Tanzanie.
Exactement.
Non, c'est vrai, c'est sûr que quelqu'un comme Nasser, par rapport même quand il était à la JSK, même Belhamri. Je me rappelle, il me parlait de Belhamri, je sais pas, il devait avoir 19-20 ans, il m'a dit, t'as un joueur qui est exceptionnel et puis il s'est pas trompé, c'était vraiment un mec. Mais tu prends un mec comme Nasser, on lui donne pas aussi.
C'est vrai.
On va le mettre à. Il accepte un challenge au MOP, c'est tout à son honneur. Il vient donner du temps à une ville comme le MOP de Béjaïa qui a pas de moyens. C'est déjà un mérite pour lui. C'est pas un opportuniste d'aller soit à l'USMA ou d'aller où il y a des clubs qui ont de l'argent qui peuvent à un moment donné. C'est comme Djamel Ménat, comme je dis, mais Djamel Ménat, c'est pareil. Quand je parle avec lui, j'ai dit, Djamel, qu'est-ce que tu fous au Mouloudia d'Alger? Il y a que des escrocs, là. Tous ces mecs, c'est les mecs de la rue qui gèrent le club.
C'est vrai,
après, tu regardes Ménat. Je trouve que quand il était aussi à Béjaïa, c'est pareil. Ils ont fait du super travail. Et c'est des mecs, les pauvres, on leur donne pas les budgets pour prendre de l'ampleur en tant qu'entraîneur. Et je pense que c'est là où se joue comme il dit, les moyens. Je pense que l'argent elle est pas dispatchée comme il faut. Si elle était dispatchée sur des mecs comme Nasser Sanjak ou des mecs comme Djamel Ménat et puis celui que je veux qu'il soit à la DTN là, de l'Harach.
Oui.
Je
pense Boualem Sharef,
Boualem Sharef. Je pense que c'est des mecs qui devraient, même des mecs comme Iri Lemesian. Qui sont un petit peu les penseurs intellectuels du football, parce que c'est quand même Iril Mézian, il écrit pas papa avec 3 P quand même, c'est quand même quelqu'un qui a une conscience qui est intelligent. Je pense que il fait partie des mecs au niveau intellectuel. Je pense que Iril Mézian, on veut pas le mettre trop en avant parce que on sait qu'il va qu'il aura une image, qu'il aura une image en Algérie. Et bon, et en plus ça, il parle bien la langue de Molière.
Ça, c'est vrai.
Mais en plus, ce sont des entraîneurs, par exemple, avant qu'ils viennent en équipe ou en tant que DTN, ce sont des entraîneurs qui vont demander des conditions, une carte blanche. Et Nasser Sanjar, avant de venir en MO, par exemple, il a eu carte blanche. C'est pour ça, c'est lui qui a géré le club. Et c'était Nasser qui a lancé des joueurs comme Bawali, comme Koudir, qu'on ne connaissait même pas. Ce sont des joueurs qui étaient inexpérimentés, mais qui ont réussi à amener le MOB en finale de la Ligue des Champions. Mais par contre, pour tout au long de leur parcours, ils ont affronté de grands clubs. Ils ont affronté des clubs marocains, des clubs tunisiens aussi, l'Espérance de Tunis, à
Béja. Le club ghanéen de Heads of Oak, également.
Voilà. Et ensuite, ensuite, ce sont des joueurs. Nasser, pendant son épopée en Algérie, il a perdu des joueurs extrêmement expérimentés. Ouais. En l'occurrence, Ndoye, qui a été transféré en plein milieu de saison. Ce sont des joueurs qu'il a perdus. Et malgré ça, malgré la perte de ces joueurs qui représentent l'ossature de l'équipe, Nasser a réussi quand même à atteindre la finale. Et tout le mérite lui revient.
Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mine de rien, parmi ces joueurs issus d'immigration, comme l'a dit Boula sur Walid Regragui, il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Parce qu'il vient de gagner la Ligue des Champions d'Afrique face au Ahly du Caire, 2-0, rien à dire. Bravo, moi je peux te le dire aujourd'hui. 2022, c'est l'année du football marocain. Hein. La Ligue des Champions avec le Wydad, et puis la Coupe de la CAF avec la Renaissance de Berkane. Ah oui, l'équipe qualifiée en Coupe du Monde avec Evaïd. Voilà.
Ouais, tu sens que.
Il y a quelque chose.
En tout cas, il y a un truc que tu peux pas enlever au roi du Maroc, c'est que. Il sait que son peuple adore le football. Mais quoi qu'il arrive, il ouvre les robinets, il fait des stades et il ouvre les stades. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont des vrais stades.
Ah, ça c'est vrai.
Ils ont des vrais stades. Oui. Tu peux pas à un moment donné. Aujourd'hui, moi je suis algérien, je suis fier. Mais le problème c'est que notre voisin, on est obligé de le respecter par rapport à les infrastructures qu'ils mettent en place pour le football. Et comme disait Foudil, je pense que
c'est ce qui nous manque.
C'est ce qu'il disait Foudil tout à l'heure. On a besoin politiquement que les infrastructures le Maroc a fait une mosquée. Bravo, une grande mosquée. L'Algérie a fait une grande mosquée aussi.
Oui.
Alors j'espère que dans le football on verra pareil.
Il y a trois stades qui sont en préparation pour l'instant, mais le stade qu'on attend le plus, c'est celui de Tizi Ouzou. Ça fait 20 ans qu'on attend.
Ça, c'est
l'Allianz Arena, par exemple, du Bayern de Munich a été.
Ah, c'est bien pour le. Moi, je pense que pour la Kabylie, c'est une. Quoi qu'il arrive, la Kabylie mérite ce stade. Par rapport à l'histoire du football de la Kabylie, je trouve que. Nous, c'est quand même. Nous, la Kabylie, ça reste quand même.
Important.
Une nation de football. C'est des gens très, très intelligents, qui voient très, très loin. Maintenant, je serais content que la Kabylie mérite ce stade à Tizouzou.
Le MOB, en 2016, elle a dû jouer à Blida. Ça veut dire que les supporters ont dû se déplacer, ont dû parcourir plus de 250 km pour voir leur équipe.
Oui,
parce que faute de stade. Le MOB ne pouvait pas accueillir tout puissant Mozambé à Tizi Ouzou, voilà, 1er novembre, parce qu'il n'était pas homologué.
Et puis, en faisant ces stades-là, ça permettra aussi au peuple de s'éduquer, de s'y discipliner dans les stades, qu'il y ait moins de problèmes dans les stades, faire une sécurité. Je pense qu'on a besoin aussi de construire ce football. Je pense qu'il y a plein de vecteurs. Tu as la sécurité, tu as les stades. Et je pense
la formation aussi.
Ouais.
La disponibilité des terrains pour les jeunes.
Très bien, messieurs, on va aller du côté du Standard, sans plus tarder, avec. On va commencer d'abord par. Je pense que c'est Malik qui est là.
Fou de sport. La semaine sportive. La semaine sportive.
Bonjour, Malik.
Bonsoir à Mohamed. Bonsoir à Nassar Sanjar, à Sofiane. Si vous avez le retour de Boulay, voilà. L'expert algérien.
C'est Boulay.
L'expert algérien, là. Pas l'expert français, là.
Non, mais.
Avec vos collègues de nouveau, là.
Alors, écoute, il y a Malik, il y a Fodil.
Oui.
Et il y a Boula.
C'est
pas un Boula. Ah,
Boula, voilà, expert algérien.
Ok.
Voilà.
Okay,
avec un Fodil et tout ça de nouveau. Ah. Je passe un grand bonjour à Nawad de l'autre côté, à Etemotion.
Oui, voilà, c'est vrai.
À côté, pas loin de Tlemcen, voilà, de Mascar et tout ça. Voilà. Je te parle de Mohand et tout ça, de la GSK à la GSK avant.
Oui.
Voilà.
Oui,
mais maintenant, il n'y a pas GSK. Mais elle monte un petit peu. Il faut qu'il monte un petit peu la GSK. Voilà,
mets les cadres, attends, s'il te plaît. Retire ton haut-parleur, parce que là, ça fait très mal à l'oreille.
Voilà.
Voilà,
la GSK, c'est l'amour de la Kabylie.
Ah, on est 20.
Et de, voilà. Et de l'Algérie.
L'Algérie. Bon, moi, je me rappelle, moi, je suis de Bourne.
Oui.
Bourne, comme une dessus, à côté de Blémendès. À côté de Kriyatun.
C'est ça.
Voilà. Un gars, c'est un jeu de Davarnous. Mais Davarnous, il dit, je vais veiller à la famous.
Ah, attends, mais ne me dis pas que tu connais Ali Halli, non? Ok, c'est bon.
Voilà, le Cheikh Lakoul.
Ok.
Hakim Zoddak, il a ramené, comment s'appelle, Amoura, c'est bien. Mais je pense qu'il y a un autre là qui veut choisir l'Algérie, là, il a été mon jeune, Hassan Awar.
Oui, ben, voilà. parce qu'il a fait un match de quartier, Aïn Dimouchent.
Voilà, Aïn Dimouchent, voilà.
Bon.
Il est là-bas. Ouais. Je pense, j'ai entendu la circulation d'informations des Algériens. Il a dit. Et il va choisir l'Algérie parce qu'il est rejeté par des gens.
De toute façon, il sait très bien qu'aujourd'hui, en équipe de France, il n'a pas sa place.
Les places sont chères.
Non, il a sa place. Il a sa place.
En équipe de France,
il a sa place. À côté de Mbappé.
Ah, là,
voilà. Voilà, c'était le live.
Pourquoi Boulay n'a pas sa place aujourd'hui à voir?
Déjà, il y a Fekir avant. Il y a Fekir avant quand même.
Ah, c'est vrai. Dans l'ordre, il y a Fekir.
Ah ouais, parce que là, tu peux pas à un moment donné dire qu'il a sa place. Et quand je vois Fekir l'année qu'il a fait en Espagne,
c'est vrai, en plus,
c'est pas le même poste aussi.
Si, c'est le même poste.
Mais il y a Aït-Nouri qui a choisi l'Algérie.
Oui.
Il y a Sénadel.
Ouais. Aït-Nouri, bon, normalement, ça devrait se faire.
Yassine Adli.
Yassine Adli.
Normalement, c'est OK, normalement.
Normalement. Après, tu sais, Jamal, il doit parler avec eux. Et ouais, puis, il va voir ceux qui...
C'est à lui d'aller chez eux.
Non, mais même...
Non, c'est vrai, il ne vient pas comme ça.
Non, mais Malik, ça, c'est des discussions internes. Je pense qu'ils ont des discussions ensemble, certes.
Ouais.
Maintenant, il y a un truc qu'il faut que tu saches, que Adli et Aït-Nouri, le petit Aït-Nouri, je pense que c'est des joueurs jeunes, très jeunes. Je pense que les discussions qu'ils ont... je pense qu'avec l'entraîneur, parce que je pense que c'est Jamel qui doit discuter directement avec eux. Et je pense que c'est deux joueurs. Je pense que c'est deux joueurs précieux pour les A en équipe d'Algérie. Et en plus de ça, connaissant les deux dans l'éducation, dans la discipline, je connais un petit peu le petit Aït-Nouri qui est quelqu'un de vraiment d'éduqué, qui a un père extraordinaire. Il est d'Algérie.
D'Algérie.
Il est algérien, non?
Il est
Et ses parents, ils sont de la Kabylie.
Voilà. Mais Adli, il est d'origine kabyle.
Mais son père, il est pas de Béjaïa. Son père, il est pas loin de Azazga. Il est pas loin. C'est un gars d'Azazga.
Ah oui.
Je connais très bien Farouk, son père.
Et là aussi, il est doux,
le petit de Bordeaux, lui, il est de la Kabylie. Yassine Adli, Yassine Adli, il est de la Kabylie.
Et là aussi
C'est Wetsouf. Hein.
Mais bon, peu importe qu'il est de Razawat,
Razawat,
Kabylie, pareil, c'est pareil.
Là, kif.
Vive Zazayen.
Eh ben normalement on a, merci à Malik, voilà. On a une belle génération.
Attends, Mohamed, je vais te dire. Maintenant, je affronte Mourad.
Non,
il parle.
Attention.
Et tout ça, faut pas qu'il mélange tout. Il a raison. Il faut mélanger des joueurs immigration et des joueurs de local. Pour vous donner une chance et des joueurs de local.
Oui.
Je ne suis pas d'accord avec lui à dire « Aouchiche, Aouchiche, Aouchiche ». Si Aouchiche ne vient pas pour l'équipe d'Alger, c'est lui qui va faire tout ça. Plus Mahrez, je mets un amende pour lui. On n'a pas de joueurs de local beaucoup. On a du joueur d'immigration. Bourkif.
Attention, Malik, donc il reste en ligne. Il y a l'horloge qui joue en ma défaveur. Tu restes en ligne parce que Faudil veut intervenir. Et je récupère tout le monde dans un instant.
Faux de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Faux de sport sur Beurre FM.
Vous le voyez, comme le temps passe vite, on reprend... Alors, avant que Malik reprenne, parce que Faudil devait lui répondre. Vas-y, je t'écoute.
Oui, Malik, tu m'entends ?
Oui, Faudil Aboulhaï, je connais même la chanteuse. Voilà, moi, elle est morte, Cheikha Admetti.
Non, mais attends, Boula.
Ah, c'était une bibliothèque, Cheikha Admetti. C'est la grande star des stars du rail.
Écoute la réponse de Faudil.
Malik, voilà. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait que c'est Jamel Belmadi qui contactait les joueurs. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est pas Jamel Belmadi de prendre contact.
Non, il contacte pas des joueurs. Il vient pas.
Non, c'est au président de la FAF de prendre contact avec les joueurs et ensuite contact. Belmadi va parler avec eux et Belmadi s'occupe du volet technique. Et c'est pas à lui de tout faire au sein de la sélection algérienne. C'est ça le problème. Et c'est ça aussi ce qui fait la particularité et la difficulté de la tâche de Belmadi au sein de la sélection algérienne. On l'a vu même lors du déplacement face au Qatar. Là, aujourd'hui, ils vont jouer face à l'Iran. Et quand la sélection algérienne est arrivée au Qatar, il n'y avait même pas eu de bus qui les attendait.
Oui, des bus. Voilà. Ça devient d'où, ça? C'est la chef de l'Algérie. Voilà.
Oui, c'est
parce qu'un professionnel, quand il vient, c'est à toi d'envoyer le bus, envoyer le taxi, tout ça. Parce que j'ai entendu même, c'est eux qui payent tout de leur poche.
Oui, Malik. Voilà, c'est dégueulasse. Malik, il y a même aussi.
Non, tout est pris en charge, Malik.
Non, c'est fini. Malik,
tout est pris en charge. Les joueurs, ils sont remboursés depuis. Ils ont leur assurance.
Non, mais ce qui est bizarre, c'est effectivement cette histoire de.
Et Malik aussi, il y a trois membres du staff de Jamel Belmadi qui sont restés à Dar es Salaam parce qu'il y a eu un problème.
Après le match contre la Tanzanie.
Juste après le match, parce qu'ils n'ont pas réussi à quitter la Tanzanie.
Oui.
Parce que la personne qui a fait la liste des joueurs a oublié trois personnes. Et parmi ces trois personnes, il y a le chargé de la sécurité de la sélection algérienne, mais aussi le photographe de la sélection. Et qui sont restés à Dar es Salaam.
Mais ça, c'est une faute professionnelle.
Voilà, exactement. Donc, ça veut dire, Malik.
Normalement, ceux qui se sont occupés du volet retour de la sélection.
Ils doivent être démissionner
ou être virés carrément.
Et c'est pour ça, Malik, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est pas à Belmadi de tout faire. Belmadi, il s'occupe du volet technique.
Quand tu dis du volet technique, mais il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le volet technique, ça concerne un peu le choix sportif.
Oui, mais
je regarde le petit du PSG qui est parti au Bayern, qui était un international espoir. Celui qui l'a sollicité et qui lui a dit de venir, c'est Aliou Cissé. Oui. Et aujourd'hui, quand tu regardes le gamin en espoir, aujourd'hui, il va faire une Coupe du Monde. C'est-à-dire que son projet, Aliou, il lui a dit exactement le projet, comment il a
expliqué. Le premier contact, c'est pas Aliou de Cissé de le faire. C'est au président de la FAF le premier contact. Ensuite, Belmadi suivra derrière.
Non, mais là, Faudil,
je
suis pas d'accord avec toi sur ce volet-là, parce que ce sont des joueurs qui sont nés en France, qui ont grandi en France.
Ils doivent faire la démarche aussi.
Non, c'est même pas ça. Et qu'ils leur font un contact qui leur ressemble. Jamel est un enfant de France. C'est un enfant de Champigny. Il sait comment parler avec ses garçons. Tu prends le patron de la FAF. Et lui, il n'a pas le discours, il n'a pas le langage avec ses garçons. Ils ne vont pas venir. Donc, si la démarche, elle commence par le patron de la FAF, ça ne marchera pas.
Mais Jamel Belmadi, juste après l'élimination lors de la CAN 2022, il avait déclaré mot par mot que je ne peux pas tout faire au sein de la sélection algérienne.
On le sait.
Lui, sa principale tâche, c'est le volet technique.
Oui,
le premier contact, il doit se faire par la fédération algérienne. Et ensuite, Belmadi, automatiquement, rentrera
Mais ça ne marchera pas.
Mais c'est pas un volet technique, c'est plus un volet sportif que technique.
Oui, mais ça
c'est plus
pas
un volet sportif. Après, le technique, c'est le président.
C'est le, oui, voilà. Oui,
le président, il gère tout ce qui est technique au niveau, au niveau convocation, au niveau gestion, tout ça. Mais après, le langage. Le langage que Jamel doit avoir sur le joueur qui va venir en A, je pense que le mec le numéro un qui doit avoir cette discussion, c'est Jamel et le joueur qui veut, que Jamel veut récupérer en sélection. Parce que le choix, qui c'est qu'il fait pour avoir, c'est Jamel. Jamel, comme il dit au journaliste, et le pire, c'est qu'il dit aux journalistes, quand on dit, parce que les journalistes, quand ils posent la question à Jamel, c'est Jamel comme si lui doit en rendre compte. Et Jamel, il leur dit, mais vous êtes la presse. Allez voir les joueurs. Les joueurs, ils vont vous dire exactement ce qui se passe. Moi, j'ai pas à vous dire. J'ai une discussion avec les joueurs, mais c'est
mais est-ce que c'est à Jamel Belmadi d'établir le premier contact? C'est ça la question.
C'est quand même Jamel qui va donner le détail du joueur sportif. Je veux celui-là.
Oui, mais là, c'est pas lui.
Je suis d'accord avec toi, Foudil. Peut-être, c'est vrai que dans ton sens, t'as raison dans le sens où Jamel, il va leur donner une feuille de route, que moi, sportivement, ce joueur me convient avec le groupe. Faites le nécessaire pour me le mettre en face de moi et que, c'est voilà. Oui. Et c'est vrai que c'est plus classe de mettre le président par rapport à la demande de Jamel.
C'est ce qui s'est passé aussi.
Oui, mais si on suit le protocole, je suis d'accord.
C'est ce qui s'est passé aussi avec Youssef Belaïli quand il l'a récupéré. C'était comme ça. C'était le président Zetchi qui a eu contact avec Youssef Belaïli. Et ensuite, Belmadi l'avait vu derrière.
Et c'est normal. Après, sache que Belaïli, Jamel, sportivement, il le voulait.
Voilà.
Après, Jamel, il a dû dire à Zetchi, écoute, règle-moi le problème. Et tant mieux pour le Belaïli, parce que ça l'a permis aujourd'hui, malgré ses histoires, le pauvre, tout ça, au moins, ce qui est bien, c'est qu'en Algérie, on leur donne une chance aux jeunes. On va pas les laisser, parce qu'il a fait une connerie. Ben, je suis content que Jamel et Zetché ont reclassé professionnel Belaïli, qu'aujourd'hui, tu regardes, il a une proposition de Brest pour rester. Il a une proposition Brest pour rester, mais bon, la proposition elle est pas alléchante comme par rapport à quand il est arrivé. Mais il y a un truc qui est bien, c'est que sportivement ils sont intéressés pour le garder.
Et ça c'est important le volet sportif. Hein. On l'a vu hein, de toute façon depuis qu'il est arrivé en Ligue 1 avec le temps et le temps qui soit un peu plus affûté. On l'a vu sur ses dernières performances. Ça veut dire que ce garçon, maintenant, il faudra le juger, non pas sur un ou deux mois de compète, mais sur une saison de championnat, où là, on va vraiment voir la valeur réelle du joueur. Parce que sur quelques matchs, oui, c'est facile, mais sur une saison, c'est ce qu'il faut voir.
Et n'oublions pas, Youssef Belaïli, à son arrivée à Brest, il n'avait pas une préparation
pas du tout,
avec le club. Il n'y avait pas d'automatisme avec ses partenaires. Au fur et à mesure du temps, il a réussi à s'adapter au système de jeu, parce que le système de jeu de Brest n'est pas identique que celui qui est de l'équipe nationale, même s'il évolue toujours sur un côté. Mais par contre, il fallait créer des automatismes. Et Belaïli avait un seul automatisme, c'était avec Ben Kabla, parce que c'était un joueur qu'il connaissait en équipe nationale.
Bon, ça a beaucoup contribué.
Et ça l'a aidé.
Ouais, c'est vrai. Harris, il y est pour beaucoup. Alors, autre chose maintenant. Alors, Malik, on va se quitter maintenant.
Oui. Il y a même un joueur algérien, il est parti mouler Diodorant il y a longtemps, et il joue dans un club macédoine.
Ah bon ?
Voilà, il a 24 ans.
Ouais. Par contre, Malik, par contre, tu n'as pas de chance. Belmadi, il a appelé Bilal Omrani, mais il était blessé.
Ça fait trois ans que
Malik réclame Bilal Omrani en équipe de l'Algérie.
Ouais, voilà, équipe nationale. Ouais. Il y a des joueurs. Il y en a des joueurs qui jouent en Suède, espagnol. Voilà, il y en a des joueurs. Il y en a des joueurs qui jouent en Suède. Voilà, il y a des joueurs.
Après maintenant, il faut que Jamel fixe un critère. Il ne suffit pas qu'un joueur joue en D3, D4, il va arriver en équipe d'Algérie. Non, mais maintenant, c'est l'équipe d'Algérie.
Non.
Elle arrive à un niveau. Voilà. Maintenant, il faut être exigeant.
Voilà. Il faut qu'il prenne un peu le joueur de local.
Ouais.
Comme un joueur de jeunes, il est bien. Arrête de Ben Sayah.
Écoute, là, au niveau local, pour l'instant, c'est un peu compliqué.
Voilà.
On verra. Merci, Malik.
Allez, bonne continuation. Tu passes un grand bouger à de l'autre côté. Hein.
Merci, c'est ça.
Pas oublier. Hein. Non. Avec c'est Jack et Sofiane.
Hein. Ok, faut ça
pas
marche.
Oublier, hein.
Arrête. Hey,
Mohad,
oui.
Même il y a le chanteur Mendes, connais sur Hachina Mendes.
Je le connais, t'inquiète.
Hachina Tchouchi.
Ouais, je connais. Ouais.
Voilà.
Ça arrête.
Je connais même
Chirac. Malik, il me raconte tout, hein, mais il comprend le culturel. Il y a une chose, c'est que moi, j'ai deux passions. J'ai la culture et j'ai le sport. Donc, quand je suis à l'antenne, je maîtrise les deux. Bon, on a dit par rapport à ces joueurs-là aujourd'hui sur la façon de s'identifier, sur la façon de les convoquer. C'est vrai que quand il y a un protocole, tu as un président de fédération, tu as ensuite. Mais aujourd'hui, au vu de la situation actuelle du bureau fédéral, il faut le dire, en Algérie, avec Charles Fadine Amara, le mieux placé, c'est pas lui, c'est Jamel Belmadi qui est placé, sauf parce que Jamel n'a pas ce qu'on appelle ce fameux gestionnaire, comme l'était à l'époque Walid Saadi avec Al-Warawa, où Walid Saadi faisait quasiment tout le boulot. Bon, Al-Warawa, c'était le président, il était au-dessus de tout ça, mais tu avais Walid Saadi qui faisait le boulot. Et aujourd'hui, Jamel n'a pas cet adjoint, je dirais, sur le volet purement administratif, négociation avec lui, qui lui permettra de récupérer des joueurs. Hein. Peut-être que certains d'entre eux hésitent pour là. Il y a des joueurs peut-être qui existent aujourd'hui à venir en sélection à cause de...
Ouais, tu regardes déjà la teneur des espoirs. Tu regardes la teneur des espoirs. Le seul qui reste en espoir, je crois que c'est le petit Amine Gouiri.
Oui, oui.
Après, Amine, c'est plus un profil aujourd'hui de haut niveau. Je pense que c'est l'attaquant qu'il nous faut pour Léa, dans la mentalité, dans la qualité de jeu. Bon, après, il a ses valeurs religieuses. C'est qu'un Algérien, il est 100% Algérien, mais là, il est dans un club où c'est un club intéressant. Et plus de ça, il est en espoir. Et je pense qu'il n'est pas chaud, bouillant pour venir en A. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que Deschamps, je vois qu'il a un problème aussi d'attaquant.
C'est vrai.
Je pense qu'il peut prendre un troisième attaquant et je pense que ça peut être Amine, ça peut être la surprise un peu des peut-être de deux trois jeunes qu'il peut rajouter dans le truc. Mais je pense que si parce Amine Gouiri ne...
Parce que le pendant aujourd'hui pour Benzema, c'est... Comment il s'appelle? C'est Benyedder.
Benyedder, oui. Ouais.
Hein?
Benyedder.
C'est Benyedder aujourd'hui pour
Benzema. Ouais, mais je pense que Benyedder, je pense que là, il le prend, il le récompense et je pense que...
C'est ça, oui, absolument.
Je pense que pour éviter que Amine Gouiri choisisse l'Algérie, il pourrait dire tiens, je vais le prendre dans l'équipe de France dans les 22, même si je le fais pas jouer, ça reste un joueur qui sera dans les plans de après Benzema, parce que faut pas oublier, c'est après t'as le après Benzema.
C'est ça, c'est ça.
Et oui. Après, je pense que la fédération ou Deschamps gère bien ce dossier Amine Gouiri, parce que aujourd'hui tu prends Aouar qui veut l'Algérie, et aujourd'hui tu prends Amine Gouiri qui a fait les espoirs là cet été, et aujourd'hui tu prends Amine, je pense qu'il est en tout en réflexion. Il a pas fait une saison par rapport à Delors, il a pas fait la saison qu'il avait fait l'année dernière, parce que je pense que Galtier il lui a mis Delors sous les pattes, et l'attaquant ils avaient pas besoin de prendre Delors. Ça a foutu un bordel dans la gestion de...
Oui, parce que tu as Gouiri, tu as Dolmerck. Merci, ouais, voilà.
Non, mais avant, quand il y avait Amine et Dolmerck, ça marchait très très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait, Galtier? Il lui a mis Delors dans les pattes. Et en plus de ça, Delors, il refuse l'équipe d'Algérie, ouais, pour finir les qualifs de Coupe du Monde. Et en plus de ça, il a un autre attaquant. Il avait déjà un attaquant. Et moi, j'estime que Amine Gouiri, il est dans une situation, je dirais, intéressante pour l'équipe d'Algérie. Après, il va falloir mettre vraiment falloir au niveau de la presse mettre vraiment lui demander exactement ce qu'il veut faire.
Moi je
parle. J'ai une dernière pause à marquer puisqu'il nous restera après un bon quart d'heure pour finir cette émission. Voilà, vous voyez, l'émission passe très très vite. Allez, la dernière pause avant la fin de cette émission.
Fou de sport revient dans un instant sur Beurre FM jusqu'à 20h. Fou de sport sur Beurre FM.
Bon, allez, tu sais, nous allons, je pense que je reconnais le numéro de téléphone, ce n'est pas le joueur, mais c'est le supporter, c'est un supporter de Bab El Oued, il s'appelle Mahrez, c'est pas Riyad Mahrez, c'est notre autre Mahrez. Bonsoir Mahrez.
Bonsoir Mohamed. Bonsoir Monsieur Bola.
Ouais.
Bonsoir Monsieur Fadil.
Bonsoir.
Mohamed.
J'espère que vous avez passé une bonne semaine.
Ouais, ça va, ça a été Mahrez.
Ouais. À part la tragédie de Ben Hamoud.
Ah, M. Rabbi Rahmoud, non, laisse tomber.
Rabbi Rahmoud, comment le destin est écrit d'un footballeur. Ouais, ouais. Il joue un match, il marque deux buts, passe des.
Ouais, ouais.
Et le lendemain, encore on n'est rien dans ce monde.
Ah ouais, Lou, c'est juste un bout de souffle. Hein.
Alors là, aujourd'hui on est là, demain on est sous terre. Faire tout le temps les bonnes actions pour laisser une bonne image toujours derrière soi.
Exactement. Mais c'est un gamin des 24 ans, hein. Tu vois, c'est
25 ans.
Il peut être mon fils, hein. J'ai une fille de 25 ans. Hein.
De toute façon, 24 ans, 25 ans, c'est pareil pour moi. C'est...
Ouais.
Voilà. En plus, son dernier match derby qu'il a fait contre nous a fait très mal, hein.
Parce que Mahrez, je te préviens que Mahrez, c'était un gars du Mouloudia. Alors, tout à l'heure, il m'avait envoyé un message. Bon, je n'ai pas voulu te le lire. Hein. Voilà, voilà.
Mais il n'a pas dit faux, là. Il n'a pas dit faux.
Non, non. Voilà ce qu'il a, voilà, il a dit.
Merci, Mohamed, de me dire qu'il n'a pas dit faux. Parce que, non, il a parce dit, que vous restez quand même un grand club. Comme la GSK, vous avez plus de, je sais plus combien de supporters dans le monde.
Oui, ça c'est vrai.
Bien sûr, mais attention, même le Mouloudia, il est connu en Afrique. Hein,
tu vas pas me dire que, comment il s'appelle, là, celui que le directeur sportif là, qui gérait le Mouloudia, est-ce que tu penses qu'en termes d'image par rapport à l'image du club, comment il s'appelle?
Au Maghreb.
Non. Tu vas pas me dire que c'est la référence médiatique du football algérien,
non,
quand
c'est
même.
Une c'est une catastrophe, non, on est d'accord.
Tout. Après, moi, je me rappelle de certains du Mouloudia. Le Mouloudia, il a une image dans le monde et il a 100 clubs. Et tu peux pas.
Voilà, le Mouloudia, écoute, le Mouloudia, tout comme la JSK, tout comme l'USMA, tous ces clubs-là, ils sont censés être des locomotives pour le football algérien. Ils sont censés être des clubs, des institutions. Parce que même le Mouloudia en Afrique, c'est le premier club qui est connu en Afrique, en 76. Les anciens, ils s'en rappellent.
Oui, bien
après
sûr.
Après la GSK, comme l'a dit Mohamed, la GSK est partie sur la lancée.
Oui.
J'ai décidé même de football où il était mauvais. Et il était en plein désespoir. La GSK a tué les têtes. C'est que Algérien, tu vois.
Oui.
Qui a fait que la GSK était plus connue, quoi.
Bah, c'est-à-dire que nous, à l'époque, Mahrez, je ne te cache pas que la GSK a récupéré des joueurs du MCA et du Net, surtout. Parce qu'il y a un garçon, un garçon comme Tahir, il a quitté le Mouloudia pour venir à la GSK. Je parle du gardien de but, Hamid. Abdelazak Harb, il a quitté Kouba pour venir à la GSK. Il a quitté le NED pour venir
à la GSK.
Oui, donc il y en a plein comme ça, j'ai connu, bien sûr. Je connais ils sont encore en vie.
Mohamed. T'avais Omar Hamnad aussi du côté de la GSK, venu au Mouloudia. Non, en fait, ces deux clubs, ils ont des très grandes relations.
Mohamed, j'ai fait venir. J'ai fait venir Benamou, Mohamed Benamou, et j'ai fait venir Mokhdad.
Oui, c'est vrai.
Et après, je me suis retrouvé dans une situation avec Gharib. Gharib, il voulait être l'agent de Mokhdad. Voilà.
Et moi,
personnellement, connaissant.
Voilà, totalement. De toi, moi, viens, on va changer de sujet parce que ce type-là, j'ai même pas envie d'en parler de lui.
Ah, bah ça va, on a le même langage alors.
Non, mais
voilà. On est d'accord. Toi et moi, on est d'accord sur le bonne chose sur ce mec-là. Parce que si on va parler de lui, on va perdre notre temps dans la radio. D'un type qui n'en vaut pas la peine. Quand tu vois les plateaux télé, il invite encore.
Tu as raison.
C'est une perte de temps. Moi, je préfère parler de l'équipe nationale, des nouveaux joueurs.
Oui, bien sûr, normal.
Moi, je reviens à ce qu'il a dit, Malik, que je retiens.
Ouais.
Quand il a parlé sur les joueurs locaux, moi, je lui dis, ah, Malik, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de joueurs locaux. On n'a que des bêtes. Le problème, comme on dit chez nous, il y a du talent. Ils ne sont pas assez exploités.
Eh oui.
Mais sinon, si tu leur mets des bonnes personnes, des bons entraîneurs, des bons formateurs, ça va faire quelque chose. Et aujourd'hui, la chance.
Mahrez, est-ce que nous n'avons pas de bons formateurs en Algérie? C'est ça la question. Nous avons des
le
bons
problème,
formateurs.
Pourquoi tu n'as pas de bons formateurs? Parce que je vous ai entendu quand vous avez parlé Gorkif, il a fait des réunions. Mais déjà, avant de dire qu'ils ne venaient pas, ce n'est pas eux qui ne venaient pas. L'État donne les moyens
à
tous les clubs,
c'est vrai.
À tout le football algérien. L'État, il est irréprochable là-dedans.
Parce que vous
avez fait le Maroc.
Marez, les moyens, ils les ont. Les budgets, au niveau du football algérien, il y a les budgets. Mais le problème, c'est que, regarde, quand tu vois un joueur comme Bounedja. Bounedja, aujourd'hui les présidents, c'est plus des agents que des directeurs sportifs. C'est eux qui s'occupent des
mouvements.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces joueurs-là, C'est vrai qu'on a des bons joueurs, mais quand tu vois un mec comme Bonedja qui se retrouve au Qatar ou qui se retrouve en Tunisie, moi si demain j'ai un joueur comme ça, je suis président, je le mets pas. La qualité qu'il a Zetché, c'est quand il a ses joueurs, tu les verras jamais au Qatar, tu les verras toujours en Europe.
Oui,
ouais.
Oui, mais Boula, toi comme tu dis, je suis d'accord avec toi. Moi je le pense la même chose. Mais on a des dirigeants mafieux, des voyous. Ils aiment manger avec le joueur, ils prennent partie avec le manager, ils partent. C'est tout le monde mange, tout le monde.
Ah voilà, t'as compris que les budgets, ils ne sont pas dispatchés comme il faut.
C'est pas du joueur. Aujourd'hui, tu vois, vous avez parlé que Gourcuff, il a dit une fois. C'est là, je lui retiens un truc à Gourcuff, même si j'ai jamais été fan de lui. Quand il venait, il faisait les premières réunions avec des entraîneurs, des formateurs. Le mois prochain, il voyait un autre formateur. Pourquoi? 3, 4, 5 matchs, l'entraîneur, il est dehors.
Bah, une fois, Gourcuff, il a atterri dans le réfectoire avec les joueurs. Il voit un joueur, il regarde. Il était en train de manger une pizza avec de la mayonnaise. Il a dit que c'est la première fois que je vois ça. Et
je vais te donner une information. Des joueurs. Je suis désolé,
je suis obligé de rire. Voilà.
Attends, je vais te donner une histoire. Des joueurs du Mouloudia.
Vas-y.
Attends.
Oui.
Parce que là, je vais la raconter à tout le monde. Vous allez l'écouter.
Oui. Vas-y.
Il y a des joueurs du Mouloudia.
Ouais.
Qui étaient la saison 2012-2013. Ils étaient en bonne forme. Après l'affaire de la finale, tout le monde a été viré, Mennad était parti, tout ça. Il y a une nouvelle direction. Sable les costumes et les cravates et qu'on est très en football.
Ouais.
Parce que le football aujourd'hui est géré aussi par des mecs, soi-disant des gestionnaires. Même gestionnaires, ils sont mauvais.
C'est pas des gestionnaires, c'est football, ce qu'on appelle le business. Voilà.
Voilà. Ah, ça coûte bien.
Ouais.
Et des joueurs. Parce que le joueur, comment se passe en Algérie? Il a l'image du dirigeant qu'il en face de lui, hein. Si le dirigeant c'est un bon et c'est bien géré comme ça, Aïd Alir ou Mohamed Chérif Nache, le joueur il se comporte bien. Parce qu'ils ont côté ancien footballeur. Mais quand tu as des dirigeants médiocres, les joueurs ils se comportent médiocres. Je te raconte ça. Il y a des joueurs, 4 ou 5 joueurs du Mouloudia, ils sont allés manger des pizzas à Deni Barahim, des crêpes avec des gaufres au Nutella. Laisse tomber les jus, des bouteilles de coca.
Ouais.
Après, tu sais ce qu'ils ont fait?
Oui.
Ça, t'es choqué, pizza avec mayonnaise. Moi, je te dis, la gamme, t'es pas avec du thon.
Ouais.
Raconte-moi.
Non, mais comment veux-tu après?
Où est l'équilibre? Où est l'équilibre du joueur?
Ah, où je mets l'équilibre, Où je mets l'équilibre, même, il n'y a pas d'équilibre, ça y est. Drop pizza, mayonnaise ou au thon?
Oui, non, mais garantis pas. La garantie t'a, tu connais ce que c'est la garantie.
Bien sûr, la garantie du calentique, comme tu veux, appelle-la comme tu veux. Ouais.
Voilà, mais Mohamed, tu vois, Mahrez, en train de rigoler.
Mahrez, attends, tu vas m'excuser 30 secondes, parce que la compo d'équipe de l'Algérie face à l'Iran est tombée, et donc je demande à Fadil de nous la communiquer.
Eh bien, dans les buts, ça sera Mandera, Zezetra.
Alors Mandrea.
Hein. Mandrea, oui. Ouais. Zezetra, il y aura aussi Tougaï. Bedran en défense centrale, ouais. Touba arrière gauche, Benacer, Kadri, Zorgan, Rezel et Benayed et Brahimi.
D'accord. Okay. Ah oui, c'est vraiment une équipe new look.
Exactement.
Là.
Voilà, exactement.
C'est une équipe new look.
Non, ça se voit qu'il veut partir sur un truc pour voir ça. Je pense que Belmadi
il est parti sur un nouvel cycle. Il y a beaucoup de jeunes là qui vont jouer ce match contre l'Iran. L'Iran qui est quand même qualifié pour la Coupe du Monde. C'est une très très belle équipe, attention, les Iraniens.
Très intelligents dans le jeu, qui sont très disciplinés sur le terrain. C'est une culture.
Avec Aloporto, nous ont battu 2-1.
C'est une bonne culture d'adultes.
Avec Aloporto, nous ont battu 2-1, on n'a pas égalisé, ça veut dire.
C'est une culture d'éducation. Même Bougueram disait que c'était des joueurs très intelligents dans le déplacement et dans le placement de trucs. C'est pas.
Voilà. Excuse-moi, voilà. Est-ce que tu as vu la Coupe du Monde du 18? Ils ont achevé, passé, hein. Ils ont fini le 4 points.
J'ai pas vu.
Non, j'ai pas vu.
Tu parles à Toulouse.
Dans le groupe difficile. Tout le monde 2018, ils étaient avec l'Espagne, le Maroc.
Ils avaient
battu le Maroc au premier match. Ils ont perdu difficilement face à l'Espagne. Et le troisième match, ils ont fait 2-2 contre le Portugal. Ils ont failli battre le Portugal.
Et ils sont à 15 matchs sans défaite.
15 matchs sans défaite.
L'Iran,
c'est leur dernière victoire remonte face au Liban 2-0. Le 29 mars.
Très bien.
Donc je suis content pour le petit ZZK parce que je prends qu'il a fait une grosse année à Clermont. Djamel, c'est bien qu'il l'ait convoqué et qu'il lui fait confiance. parce que c'est un.
Et
c'est
vous
un
avez joueur. Oublié.
Non mais
pour
ça.
Attends, on en a parlé de Aït Nouri.
Oui, mais juste pour dire à Ryan Aït Nouri. Ouais. C'est un gars de mon quartier, son papa, pas loin de chez moi.
Ah, Farouk, ok. Farouk.
Donc il est de Babeloued alors.
Oui.
Ah, je lui passe Babeloued, un grand bonjour de ta part, Marès.
Ben il me connaît pas vraiment, mais je connais moi comme ça parce que là, il le connaît sur le moment. Ouais. C'est un Algérois de base, de naissance de Algérois d'origine kabyle, je confirme. Ah, okay. Les Algériens sont tous d'origine.
Non, d'origine
kabyle,
algérienne. D'origine algérienne et de la Kabylie.
Non, algérien d'origine kabyle.
C'est on dit
comme ça.
Non, je suis pas d'accord avec toi. D'origine algérienne et de la Kabylie. Parce que si demain il doit remplir un formulaire, quelle nationalité tu es, il va pas mettre kabyle, il va mettre algérien.
Bah oui, c'est ce que je te dis.
Algérien.
Vive l'Algérie et vive la Kabylie.
Ben voilà.
Oui.
Parce que si
les gens d'Alger, mais les gens d'Alger, on nous appelle.
Marès, faut que tu saches que personne nous divisera. Chacun.
Exactement. Je suis d'accord avec toi.
Vive toute l'Algérie.
Franchement, alors là, Bola, c'est du baraklan, c'est que t'as touché quelque chose et je suis fier. Ah, je suis fier. Bravo.
Allez, rapidement, Mahrez.
Ouais. Là, je dis que c'est un gars de Babeloued, il est côté Alger, mais c'est un Kabylé, et Kabyle, ce sont des Algériens purs, et 100%, ils n'ont aucun, ils n'ont rien à prouver à personne de leur Algérienité, les Kabyles. Ça, je le confirme.
Très bien, merci beaucoup, voilà. Mahrez.
Et bonne soirée. Ouais.
Merci.
Et bravo, voilà.
Merci,
bonne soirée.
Merci.
Bon, voilà, il nous reste une petite minute 30 pour finir cette émission. Donc là, effectivement, on vient de voir la compo, Fodil. C'est une belle surprise, beaucoup de nouveaux.
Six changements.
Un petit changement, je pense que peut-être que Jamel veut passer veut franchir un cap, tout simplement.
C'est sur quelle chaîne française, non
Bein Sport, je pense que Bein se doit y être. Oui. Tous les matchs de l'équipe d'Algérie sont sur Bein.
Ouais, c'est sur Bein Sport.
Ouais. Ouais, bah, on disait bien, quand tu as une chaîne de télé et que tu l'as remplie en arabe, en français, etc., il faut bien.
En plus, le match, il a lieu au Qatar.
Oui.
En plus, c'est Bein Sport.
Siège de Bein.
Et de Jamel.
Exactement. Ouais. Bah écoutez, je suis très très heureux d'avoir passé deux heures avec vous là.
Merci à toi. Merci à vous aussi.
On a quand même rendez-vous. Ne l'oubliez pas, dimanche 26 juin pour le bilan de la saison au niveau africain, au niveau européen, parce qu'on va se préparer pour la prochaine, qui veut dire. À la fois et la suite de la CAN et de la Coupe du Monde au Qatar.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mohand, de nous avoir invités. Merci, Boulin. C'est un honneur pour moi, surtout, d'avoir deux professeurs en face de moi. C'est toujours un plaisir d'apprendre. Et merci.
Oui, aussi, à ton âge.
Hein. Non, ils s'en sortent très bien.
Ah oui.
Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Rendez-vous donc le 26, 18h, 20h, sur Europe 1. Salut à toutes et à tous.
Merci beaucoup.